Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir cette première occasion de parler devant un public de Balsaciens et d'agrégatifs, mais j'ai plus l'habitude des agrégatifs en effet que des Balsaciens. Merci encore. L'objet de ma communication va être d'en expliquer le titre un peu bizarre de Lait idéal, titre un peu bizarre qui aurait pu s'aggraver d'un sous-titre comme Ou le beau idéal de la Chine. Mais qui peut se justifier, bien sûr, ne serait-ce que par les quelques lignes qui ouvrent le portrait de Ponce au début du roman. Je cite, page 55, « Sous ce chapeau qui paraissait près de tomber, s'étendait une de ces figures falotes et drôlatiques comme les Chinois seuls en savent inventer pour leur magot. » Donc suit, comme on sait bien, le portrait du héros qui tient à la fois de l'écumoire du masque romain, du potiron écrasé et qui est garni comme une plaine d'un bloc erratique, savoir un nez gigantesque, portrait grotesque donc. On sait bien toutefois, José Luis Diaz l'a bien montré par exemple, qu'il est arrivé à Balzac de condamner le grotesque, justement en convoquant quelques magots chinois. Il l'a fait dès 1830, ainsi dans les complaintes satiriques sur les mœurs du temps présent, tout en assortissant sa condamnation d'une proposition qui m'a paru intéressante, je cite encore, « semblables aux Chinois qui, partis du beau idéal peut-être, sont parvenus aux magots et aux chimères, nos hommes d'esprit se sont mis à considérer le crapaud sous toutes ses formes et sous tous ses aspects. » Des crapauds, donc, comme figure par excellence du grotesque. Et c'est évidemment le moment de rappeler que le crapaud n'est pas absent du cousin Ponce et que même sous ce nom démoniaque d'Astaroth, il en impose. Mais ce qui me retient surtout dans ces quelques lignes, c'est que Balzac affirme que les Chinois sont partis du beau idéal, peut-être, pour en arriver au crapaud. Ce qui pourrait faire penser aux facéties de Granville, par exemple, qui, à la même époque, en 1844, se conformant, mais à rebours, à une tradition physiognomonique, imaginait l'évolution d'Apollon jusqu'à la grenouille, dont on conviendra qu'elle n'est pas si éloignée du crapaud. Donc une question pourrait être de savoir si une forme de beau idéal ne pourrait pas conduire à quelque chose qu'on appellerait le lait idéal, à moins qu'on assiste à un renversement, ce qui serait une autre possibilité. Cette possibilité, Balzac l'envisage aussi, quelques années plus tard. Dans « La fille aux yeux d'or », les quelques lignes que je vais citer sont assez secondaires dans le récit, cependant, un point m'y retient. Il y est question d'un turban. Un de ces turbans, je cite, « que savent inventer les femmes anglaises quand elles arrivent à un certain âge et qui aurait infiniment de succès en Chine où le beau idéal des artistes est la monstruosité. » Donc il y a eu une petite évolution. Ça n'est plus qu'on arrive à la monstruosité en étant parti du beau idéal. Balzac imagine au moins une terre lointaine, mythique, où le beau idéal serait la monstruosité, ce qui est un peu différent. On se souvient que lors de sa première apparition, où il est exhibé par un montreur, le narrateur, Ponce, Mireille le rappelait, est qualifié de monstre né. On peut dire peut-être que nous approchons. Le cousin Ponce est un roman de structure concentrique. Ça me paraît un point important pour cerner cette affaire du lait idéal. Une structure concentrique, pas seulement pour des raisons d'intrigue, pas seulement parce que progressivement, Ponce se trouve confiné dans son appartement, dans sa chambre, dans son lit, prisonnier de la toile d'araignée qui a été tissée par ses ennemis. La structure est concentrique aussi parce qu'elle repose, me semble-t-il, sur des jeux d'emboîtement. On lit ainsi aux dernières pages que la collection est l'héroïne de cette histoire. La collection en occupe le centre de l'histoire, de la même façon qu'elle occupe le centre de l'appartement de Ponce. Et rien n'est plus précieux que ce musée Ponce, qui est souvent désigné comme un sanctuaire, qui est un lieu sacré qu'il faut protéger des profanations, d'où l'importance des gardiens, d'où l'importance capitale de la portière. On pourrait quasiment résumer le roman à une affaire de porte. La plupart du temps, elles sont mal fermées, les portes, dans le Cousin Ponce, à quelques remarquables exceptions près, qu'on pense au système de protection mis au point par Magus, ça doit sortir du juif errant, ou qu'on pense à la porte de prison de Fraisier, porte de prison soigneusement gardée par un cerbère, la sauvage. Les joyaux de la collection et l'objet de tous les rêves de Ponce et de Magus aussi, du reste, sont des toiles de la Renaissance italienne, soigneusement choisies par un amateur qui, à la façon de Winckelmann, poursuit le rêve du beau idéal. Raphaël, corrige aussi, mais Raphaël surtout, est la grande référence dès qu'il est question du beau idéal. Il est même tout à fait remarquable que Balzac réussisse à la placer, même quand il évoque la divine musique jouée par Schmuck à la veille de l'agonie de son ami, je cite, « Il se surpassa, donc Schmuck, et plongea le vieux musicien qui l'écoutait dans l'extase que Raphaël a peinte. » Alors, il est vrai que le génie de Schmuck est incomplet, dans la mesure où lui manque l'audace nécessaire pour la réalisation d'une œuvre, mais ça le grandit d'un autre côté. Il est vrai aussi que Ponce, gastrolâtre, bricabracomaniaque, n'a accès qu'à la petite monnaie de l'absolu, la manie, la chose est sûre. Néanmoins, et je rejoins complètement ce que disait Françoise Gaillard tout à l'heure, ils incarnent à leur manière ce qu'ils aiment et qu'ils protègent, précisément parce qu'ils sont liés, parce qu'on pourrait appeler le beau idéal de la tendresse, ce que vous appeliez la forme morale du sublime, cette amitié. Et c'est alors le nom de la fontaine qui est convoqué avec la mention d'un temple, d'une façon qui me paraît tout à fait sérieuse. Je poursuis l'examen des emboîtements, puisque c'est tout de même de ça que je parlais. L'appartement de la rue de Normandie est donc cerné par des ennemis. Autour de Ponce et de Schmuck s'étagent quelque chose comme des cercles de l'enfer parisien, moderne, où se trouvent principalement, je cite dans l'ordre de méchanceté, peut-être, enfin dans l'ordre, je vais vers le plus méchant, je crois, la Cibo, Rémoninck, Fraisier, la terrible présidente Camusot de Marville, flanquée, il en était question, de sa Cécile à elle, pauvre fille qui n'a rien à voir avec la Sainte Cécile dont l'instrument tomberait si elle écoutait Schmuck, ou des gentilles Sainte Cécile, les dames du Tillet, etc., qui donnent à Schmuck sa petite pension. Et de la hideur de ces figures s'agitant ainsi autour de Ponce et Schmuck, Balzac rend compte principalement en recourant d'une part au burlesque et d'autre part au grotesque, dont il se peut bien du reste qu'il absorbe le burlesque. Burlesque d'abord, qui permet à Balzac d'énoncer justement l'éloignement de ce beau idéal, qu'on peut rapporter, beau idéal, qui est convoqué par exemple, d'une façon évidemment facétieuse, à propos de Madeleine Vivet, désignée comme une Didon d'antichambre. Ce profil tout de même Didon, là derrière, d'antichambre est un peu désolant. Le burlesque permet néanmoins de conserver quelque chose au titre de trace de ce beau idéal dont le moins qu'on puisse dire et qu'il se trouve très loin. À la limite, on pourrait se demander même si, exploitant ainsi le burlesque, Balzac ne mènerait pas une réflexion sur ce que Baudelaire, à son propos, justement, en mentionnant par exemple le nom de Vautrin, appelait l'héroïsme de la vie moderne. Je ne sais pas ce que mon ami Gérard Jean-Jambre en penserait, mais il me semble que les références à Napoléon, à propos explicite ou implicite, à propos de Ponce, à propos de Gaudissart, et même à côté de Frésier, permettent de toute façon d'installer sa figure dans le roman, au moins au titre de trace. C'est le paradoxe des débris, qu'il soit glorieux ou qu'il le soit moins. De la même façon, quand Balzac évoque l'héroïsme de Schmuck, parce que Schmuck a pris la taille de la Cibot pour l'éloigner de Ponce, c'est certainement un héroïsme très relatif. Néanmoins, l'ironie n'absorbe pas tout. Là aussi, il y a un reste, et c'est peut-être le point capital. Le recours de Balzac au burlesque signalerait le retrait du beau idéal, tout en exprimant la nostalgie et en conservant quelque chose. Et au burlesque, disais-je, s'ajoute un autre grand instrument de la satire, qui est le grotesque. Défile donc, associé aux ennemis de Ponce, tout un bestiaire infernal, des araignées, des vipères, des tigres qui grouillent dans l'obscurité et qui pourraient faire penser aux tentations de Saint-Antoine au désert. Et là, je pense à des références chrétiennes plutôt qu'aux références païennes et qui se pressent dès qu'il est question du burlesque. Les jeux du burlesque et du grotesque s'exercent aussi, je l'évoquais un petit peu en parlant de l'héroïsme de Schmuck, s'exercent aussi à propos de Schmuck et de Ponce. Ils ne sont pas épargnés, évidemment, les modalités sont différentes. Il a ainsi été question déjà de la laideur de Ponce, de sa face ou de sa figure grotesque, écumoire, potiron écrasé. Il est vrai que le montreur de ce monstre né précise, je cite, « cette laideur poussée tout au comique n'excitait cependant point le rire ». Schmuck, lui, ne fait l'objet d'aucune description. Le montreur l'élude au profit d'une simple analogie quand il pose que le sobriquet des deux casse-noisettes dispense de donner donc, le portrait de Schmuck qui, je cite, « était à Ponce ce que la nourrice de Niobé, la fameuse statue du Vatican, est à la Vénus de la Tribune ». D'où déduire que Ponce et Schmuck seraient au lait ce que la Vénus et la Niobé, grande référence de Wilkenmann, sont au beau, ce qui laisserait penser donc qu'ils représentent bien une forme d'idéal. Les jeux ironiques mis en place par Balzac à propos de Ponce et Schmuck n'ont bien sûr pas grand-chose à voir avec ceux qui prennent par exemple pour cible la Cibot ou Frésier. En l'occurrence, Frésier a l'air d'une vipère et il se trouve que sa maladie l'empêche de transpirer, c'est-à-dire que Frésier est ce dont il a l'air, c'est un animal à sang froid. Dans son cas, les apparences n'ont rien de trompeur. À l'opposé, ce qui justifie en réalité la hideur de Ponce et de Schmuck relève d'un principe d'inversion des figures. Ponce et Schmuck sont des espèces de boîtes de Silène, comme le Socrate du banquet, parce que leur hideur extérieure dissimule et protège des onguents d'une valeur inestimable. Et c'est peut-être le moment de rappeler qu'éventuellement un intérêt spécial dans cette plaisanterie que Ponce a l'air d'un vieil Alcibiade qui aurait coupé les pans de son habit. Ponce, très pauvre, la gourmandise l'indique, le parasitisme l'indique, et très riche en qualité de collectionneur, serait-il lui-même fils de richesse et pauvreté, dont la définition en qualité de pique-assiette et de bric-à-bracomane est de circuler, circuler de maison en maison, circuler pour réunir les objets qu'il chine, circuler même, C'est une proposition, je le précise au risque de me faire gronder, de Nathalie Price dans Balzac, architecte d'intérieur. C'est une circulation qui réunit aussi, étant donné les idéaux du personnage, qui réunit aussi la terre et le ciel. Il y a là un principe dialectique qui est à l'œuvre. Alors, une telle inversion de la figure, celle qu'on trouve dans le banquet, fait bien sûr tout à fait exception dans la pensée antique, qui, d'une façon générale, et c'est en tout cas la version qu'on en donne au XIXe siècle, je pense à l'esthétique de Hegel, qui en général postule une continuité du dedans, au dehors. La grâce de la Vénus de la tribune est ainsi un rayonnement. En revanche, le système grotesque dont il s'agit en ce qui concerne Poncet Schmuck est d'inspiration chrétienne. Je rappelle, ça a peut-être un intérêt dans ce contexte, qu'Érasme a interprété le banquet dans l'adage sur le Silène d'Alcibiade en identifiant le Christ à Silène et à Socrate, presque en définissant le Christ comme un clown avant l'heure. Qu'on pense au calvaire, qu'on pense à la passion, une idée générale, la laideur apparente du Christ outragé, pantelant, croulant sous sa croix, et le signe inverse, et dès lors resplendissant en dépit de tout, de sa divinité, elle marque une élection à rebours. De la même manière, et là, mon affaire de concentricité réapparaît, de la même manière, la logique des cathédrales, pensons aux proscrits, veut que les monstres qui se tordent sur ses flancs protègent et désignent par inversion la lumière divine qui se recueille dans l'autel. Et le principe se décline encore. Dieu, Mireille le rappelait, ne naît pas dans un palais, mais dans une crèche, et les derniers seront les premiers. Il y a peut-être là une possible généalogie du réalisme à explorer. La question, en tout cas, est bien celle des moyens de l'ironie. Parce que l'exploitation par Balzac du registre burlesque, qui dit l'éloignement du beau idéal, puisque les références sont classiques et antiques, soutient celle du grotesque et me semble pouvoir être appréhendé en termes de substitution d'un paradigme confusément chrétien à un autre paradigme qui est bien sûr païen et classique. C'est-à-dire que Balzac reconduirait l'interprétation de l'histoire qui détermine déjà l'organisation de l'esthétique de Hegel et dont Hugo donne sa version dans la préface de Cromwell, même si Balzac n'a pas été fasciné par la préface de Cromwell. Bien avant, mais pas tant que ça en définitive, un peu avant que Baudelaire, dans Les fleurs du mal, ne dédie ses vers à une fleur malade, moderne et chrétienne, quand le temps de Phébus et le grand Pan, le seigneur des moissons, a passé. Donc s'opposerait, se succéderait, s'articulerait au moins dans le cousin Ponce, le païen et le chrétien, l'antique et le moderne, la grâce selon Wilkenmann et la grâce selon les évangiles. La chose se décline et, comme disait Mireille, elle a même ses corrélats géographiques, voire climatiques ou météorologiques. Au burlesque d'inspiration antique et païenne s'oppose le grotesque moderne d'inspiration chrétienne. La terre du beau idéal, c'est l'Italie, où, comme chacun sait, le soleil brille toujours. À l'opposé, la modernité a son séjour dans le nord, en Flandre ou en Allemagne, c'est surtout l'Allemagne que je retiens. Comme on sait bien, dans ces pays-là, il fait toujours froid, les dieux en exil s'enrhument, c'est tout le motif décadent de la Vénus Frigida, de sa chère Mazur, qui a besoin d'une fourrure. On pense évidemment, mais Mireille l'a dit avant moi, à l'éventail de Watteau, avec ses deux faces, donc la face été, la face hiver, et au chapitre qui raconte les saisons de l'existence de Ponce. En effet, l'été a passé, le beau idéal, etc. Voilà un roman de l'hiver, l'hiver de Ponce et peut-être un hiver de la civilisation. J'insiste un peu sur cette idée que le lait idéal ne s'oppose pas tant, comment dirais-je, le lait idéal ne procède pas tant du burlesque qu'il ne procède paradoxalement du grotesque, malgré le fait que j'ai retenu l'épithète idéale. Schmuck, on l'a vu aussi, est ordinairement désigné comme un agneau ou comme un mouton, ce qui est évidemment physiognomonique à quelques égards, qui montre de l'ironie, mais qui suggère bien sûr la dimension christique d'un personnage à qui il arrive de ressusciter Ponce et qui touche au sublime. Il y a une cohérence au-delà dans le fait que cet être céleste est une figure grotesque, puisque c'est la marque de son angélisme, qu'il vienne d'Allemagne et que son chat, s'appelle Mure, voire que son domicile à lui, son taudis, soit livré à la poussière, aux écorces, aux débris de toutes sortes, même si s'y épanouissent quelques fleurs aussi naïves que lui. On peut penser au début d'Albertus, où Gautier propose de substituer le modèle du Nord au modèle du Sud, de renoncer au pays où poussent les orangers. On peut penser aussi au prologue de Gaspard de la Nuit, qui touche au même sujet et qui convoque également le nom de Hoffmann. Puisque la poésie des anges, puisque la poésie de la Béatrice à la harpe et à la rose est devenue inaccessible, alors autant vaut se consacrer au diable, sarcastique, incisif, pittoresque, dit Bertrand, qui pourrait non pas tant en tenir lieu que la réaliser par défaut, cette beauté, cette poésie idéale. Or, Le Cousin Ponce est un roman du présent, dont l'action s'achève à peu près à la date où Balzac en entame la composition, ce qui signifie qu'il prend en partie pour objet ses propres conditions de possibilité à une époque qui, ravivant le souvenir de 93 et se trouvant régie par des valeurs marchandes, ignore le beau et peut contrevenir à la possibilité de faire œuvre, ne serait-ce qu'en condamnant l'artiste, par exemple, à publier en feuilleton. La locomotive du progrès affûte de dangereux graviers qui, en s'insinuant dans le cœur des hommes sensibles, les conduit à la mort. C'est l'histoire, on l'a entendu aussi, de deux âmes pures, éprises de la grâce dans une époque qui n'en connaît rien. Une preuve en est que la présidente Camusot de Marville a été incapable de dire seulement « merci » à Ponce quand il lui offrait l'éventail, c'est peut-être tout le problème. Deux âmes pures, donc, exposées aux hideurs contemporaines et peut-être par conséquent à l'impossibilité de l'art et dont la noblesse de cœur emprunte l'apparence, voire la voix, du ridicule. Un enjeu, pour le dire autrement, formulé aussi par Baudelaire, serait celui du possible de la poésie moderne. Il me semble qu'on peut reconnaître dans cette histoire, telle que je viens de la résumer, quelques aspects d'un genre évidemment allemand, qui est le Märchen romantique et qui a nourri aussi l'auteur d'Onufrius. Un genre dédié à la poursuite de l'art, à la poursuite du beau idéal, à la recherche de l'Atlantide même. Quand rôde dans la ville ce que Baudelaire appelle un Lucifer latent, quand le diable est partout avec son cortège d'animaux malfaisants, les vipères, les araignées, les tigres. Je pense bien sûr aux marchands de sable, je pense à la leçon de violon qui se retrouve dans le chef-d'œuvre inconnu, je pense surtout aux vases d'or et aux tribulations du pauvre Anselme. Il faut insister sur un point à ce propos. Comme l'a montré aussi Louis Bertrand dans son Gaspard, avant que Baudelaire ne s'en occupe, le diable n'est pas une créature surnaturelle dans ces textes-là. Le diable n'a ni corne ni sabot, il porte plutôt l'habit noir. Ou si on dit que le diable est une créature surnaturelle, alors ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la modernité elle-même qui est surnaturelle. C'est tout l'objet de l'adolescence du rire et de quelques caricaturistes français, pardon, où bien sûr il est question de Hoffmann, de Balzac et de Daumier. Bref, voilà qui touche au fantastique. Un fantastique qui n'est pas todorovien, un fantastique moderne et immanent, qui s'oppose au merveilleux, ancien et plutôt transcendant. Le Cousin Ponce m'apparaît comme un roman fantastique au même titre que le chef-d'œuvre inconnu qui, dans sa première version, était sous-titré Conte fantastique. Et on sait bien que Hoffmann est l'une des références majeures du texte. Ce qui pourrait éclairer, et j'en arrive à la fin, ce qui pourrait éclairer un aspect du subtil réglage tonal mis au point par Balzac, en dépit de l'énormité du rire gêné tout de même, qui résonne à travers l'ensemble du Cousin Ponce. Il a inventé une tonalité spéciale qu'il décrit dès le début à travers des mots que j'ai déjà cités. Cette laideur poussée tout au comique n'excitait cependant point le rire. Ce qu'il a appelé ailleurs, dans l'échantillon de causerie française, le comique tragique. On n'est pas si loin du grotesque triste de Flaubert, qui relevait, c'est piquant dans la lettre où il en est question, la singulière marqueterie qui le constituait, marqueterie d'or et de pacotille. Qu'il soit question de Ponce ou de Schmuck, on l'a vu, l'ironie de Balzac laisse toujours un reste, elle conserve toujours au moins un débris de ce dont elle exprime obliquement la nostalgie, et surtout, contrairement à ce qui se passe quand la cible est la Cibot ou Fraisier, surtout, elle ne s'attaque pas au mal, elle s'attaque à la faiblesse, et dire qu'elle s'y attaque est même excessif. Elle touche à la précarité, elle touche à la chétiveté, elle touche, j'emploie à dessein des mots chrétien. Elle touche au ridicule attaché à la condition humaine, ce qui veut dire qu'elle est universelle et qu'elle devrait mériter le nom d'humour et peut-être même n'était l'anachronisme, puisque Huysmans l'a inventé en 1885, l'humour noir dans lequel s'exprime l'idée qu'il est une variante de l'humeur noire, une variante de la mélancolie. Car cet humour, l'humour attaché à Ponce et à Schmuck, a dans sa nature la particularité d'être essentiellement dialectique. J'y reviens. Richter l'a montré, et Richter est mentionné dans le Cousin Ponce. L'humour prend pour objet notre pauvre moi, notre ligne brisée, comme disait Baudelaire, lorsqu'il s'attachait à montrer qu'on ne peut plus imiter le beau idéal, qu'il est devenu vide. L'humour est universel parce que personne ne peut s'en exempter. Il fait sourire et il fait sourdre une forme de pathétique qui en est tout à fait indissociable. Dans ces conditions, on peut concevoir que Balzac, d'une certaine manière, cabriole, fasse la culbute, inverse le haut et le bas, pratique l'hystérone-protérone, suivant la logique des béatitudes, et qu'il fasse alternativement jaillir les larmes, du rire et le rire des larmes. C'est le principe de ce que Jean-Paul encore appelle « renversement du sublime » et qu'il associe à l'idée d'une descente aux enfers qui ouvrirait la porte du ciel. Et c'est bien ça, le Cousin Ponce. Jean-Paul parle même dans son chapitre sur l'humour, et ma collègue sera peut-être contente d'entendre cette petite citation, il parle d'une œuvre où se présente, je cite, « une allégorie de toutes les manies humaines et de cette tête d'enfant qui se conserve au fond de chaque tête humaine comme dans un carton à chapeau et qui, bien que cachée sous plus d'une enveloppe, se dresse quelquefois nue dans l'air et reste souvent seule sur les épaules et sous les cheveux blancs de l'homme arrivé à la vieillesse et à la décrépitude. » Est-ce qu'on ne reconnaît pas là quelque chose de Ponce et surtout de Schmuck ? Je me demande, pour finir, et là j'ai vraiment fini, si le mouvement ainsi décrit, cette structure concentrique particulière, si le mouvement ainsi décrit ne pourrait pas rendre compte d'un aspect de l'ensemble de la comédie humaine, dont la préface aux œuvres philosophiques montrait qu'elle dessine aussi un chemin de l'enfer au paradis, c'est d'ailleurs une raison de la référence à Dante, et qui est conçu généralement suivant le principe des cathédrales. La logique des emboîtements est vertigineuse, une boîte est toujours contenue dans une autre. On peut donc reprendre. L'héroïne du roman est bien la collection, ce qui signifie que le point de fuite de l'ensemble est le beau idéal. Ou encore, de la même façon que la sublimité de Ponce et Schmuck est protégée et signalée par leur tête de casse-noisette, l'autel illuminé de la comédie humaine est nécessairement flanqué de monstres grimaçants. Dans une certaine mesure, l'intrigue du cousin Ponce pourrait bien définir la structure de l'ensemble auquel ce roman testamentaire rend hommage, un ensemble qui pourrait bien être déterminé par le principe contrariant de la figuration inverse, mélancoliquement vouée à abriter l'idéal envers et contre tout sous l'enveloppe du grotesque. Je pense à Illusion perdue, je pense dans Illusion perdue à cette proposition finale d'une poésie des chardons, puisque le grotesque n'a pas seulement son bestiaire, mais qu'il a aussi sa flore. Dans ces conditions, ce qu'on appelle ordinairement le réalisme, quand on parle de Balzac, pourrait être envisagé comme un jeu de l'envers, ce qui me conduirait à reformuler et à déplier d'une façon, j'en conviens, assez inélégante, le titre initial de cette communication, le lait idéal, à travers la proposition suivante, du réalisme comme articulation de la mélancolie et de l'humour ou comme tentative de configuration du lait idéal. Je vous remercie.